Laudetur Jesus.
Attaque aérienne massive d'Israël contre l'Iran. Depuis la nuit dernière, l'aviation israélienne bombarde toujours les sites stratégiques nucléaires iraniens. Elle a aussi décapité le commandement de l'armée des gardiens de la révolution. Appel quasi unanime de la communauté internationale à la désescalade. On y revient juste après les titres. 100 milliards de dollars, c'est la somme que les 9 puissances nucléaires ont dépensé l'année dernière pour maintenir ou augmenter leur arsenal. C'est ce que dénonce l'ICAN, cette alliance mondiale d'ONG qui milite pour l'abolition de l'arme atomique. Le président du gouvernement espagnol exposait un scandale de corruption au sein de son parti, le Parti Socialiste. Mais Pedro Sanchez n'entend pas démissionner et convoquer de nouvelles élections. Floribert Buanachoui, béatifié dimanche à Rome, ce Congolais, martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, était également engagé auprès des enfants des rues. Nous avons témoignage de la responsable de la communauté de Sant'Egidio Goma, dont il faisait partie.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, une déclaration de guerre d'Israël à l'Iran, selon les termes iraniens. Après les frappes massives de la nuit dernière, de nouvelles attaques contre des sites nucléaires iraniens sont actuellement en cours. Celui de Natanz, dans le centre du pays, en est l'épicentre. Un aéroport du nord-ouest du pays est en flammes. À deux jours de pourparlers américano-iraniens sur le nucléaire, à Oman, l'opération israélienne Delphine Allaire est partie cependant pour durer.
Oui, Xavier, les attaques continuent. 200 avions israéliens ont visé une centaine de cibles, indique l'armée israélienne qui a neutralisé la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Son chef Hossein Salami a été lui tué dans la nuit, de même que le chef d'état-major des armées et 6 experts nucléaires travaillant sur ce site d'enrichissement d'uranium. De ce site en particulier, ses installations souterraines a été visée plusieurs fois depuis le début de l'opération cette nuit. Les dégâts y restent en surface, affirment les Iraniens. En revanche, le pays déplore 95 blessés à travers tout l'Iran. C'est une déclaration de guerre écrite dans sa lettre aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Pour l'État hébreu, l'Iran s'approchait du point de non-retour vers la bombe atomique. Résultat, envoie des drones sur Israël et justifie avec d'autant plus de véhémence sa volonté d'enrichir donc de l'uranium sa technologie nucléaire et ses capacités balistiques.
Le régime iranien menace aussi, Delphine, ceux avec qui il devait discuter ce dimanche à Oman, les États-Unis.
Oui, ils seront responsables des conséquences de l'attaque israélienne, prévient le régime iranien qui ne croit rien de la non-implication officielle américaine. Le président Trump tente à présent de maintenir les négociations prévues dimanche d'en faire une monnaie d'échange pour forcer l'Iran à un accord. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump met en garde contre de prochaines attaques israéliennes encore plus brutales. Il faut un accord avant qu'il ne reste plus rien, écrit le président américain, confiant avoir tout essayé avec l'Iran. Il réunit tout à l'heure à la Maison-Blanche son conseil de sécurité nationale. Ce sera à 17h heure de Rome.
Delphine Allaire, mais les réactions dans le monde se multiplient depuis ce matin. À la plupart pour rappeler au calme et à la désescalade, pour condamner ces attaques israéliennes, à l'exception en Europe, de la République tchèque qui estime qu'Israël a le droit légitime de se défendre face à la menace iranienne. Les chancelleries s'activent donc, les dirigeants britanniques, français et allemands sont ainsi en train de s'entretenir. Le pape, en recevant ce matin le président libanais Joseph Aoun, a souligné par ailleurs le besoin nécessaire et inévitable de favoriser la pacification de l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Les liaisons aériennes de plusieurs compagnies sont-elles suspendues vers Tel Aviv ou l'Iran? Nul ne sait pour l'instant, en effet, à combien de temps cette situation durera. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Avec l'ouverture de ce nouveau front, la guerre dans la bande de Gaza semble passer au second plan. Une bande de Gaza coupée du monde depuis que la dernière ligne de fibre optique encore en service a été coupée hier. Le ministère palestinien des télécommunications indique que les réseaux de téléphonie et d'internet sont hors service. Concernant le sort de la population affamée par manque d'aide humanitaire bloquée par Israël, l'ONU dénonce pour sa part l'échec du travail de la Fondation humanitaire pour Gaza, cette ONG soutenue par Israël et les États-Unis. C'est un sujet d'attention majeure pour le Saint-Siège, attentif au développement plutôt qu'au réarmement. Les dépenses des 9 puissances nucléaires dans le monde ont franchi pour la première fois en 2024 la barre des 100 milliards de dollars. C'est plus 9 milliards sur un an et la moitié concerne les États-Unis. Le constat émane du rapport annuel émis aujourd'hui par la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cette coalition d'ONG qui siège à Genève fut lauréate du Nobel de la paix en 2017. Jean-Marie Collin, son directeur pour la France, également chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, revient sur l'évolution récente et donc sur la hausse de ses dépenses.
Tous ces États, aujourd'hui, sont engagés dans une seule chose, qui est la pérennisation de leurs arsenaux nucléaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si ça a joué, bien sûr, dessus, tous ces États ont planifié des programmes de renouvellement et de modernisation de leurs arsenaux nucléaires bien avant le second conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire 2022. Les décisions, par exemple, qui ont été prises pour la France de programmes pour moderniser des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont été prises au cours des années 2010, donc on le voit hein, en termes d'échéanciers calendaires, parce que d'ores et déjà, ils avaient cette vision d'une vision à long terme sur les armes nucléaires et de ne pas donner de chance finalement au désarmement nucléaire. Et c'est ce qui explique aussi la volonté d'une écrasante majorité du monde, parce qu'il faut aussi le rappeler, d'une part, de ne pas se doter d'armes nucléaires, mais surtout d'avoir commencé à agir dès 2017 en travaillant à l'adoption d'un traité sur les armes nucléaires, hein, le TIAN, qui est entré en vigueur en 2021. Donc on a aussi cette rupture qui s'est créée où on a une pression de la part de ceux qui ne possèdent pas ces armes nucléaires pour essayer d'engager ceux qui les possèdent à revenir à une réalité internationale, puisque bien évidemment, il faut aussi en avoir conscience. En cas d'emploi volontaire ou involontaire, c'est bien un changement de société humaine auquel on serait totalement confronté.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Le Premier ministre espagnol en pleine turbulence. Pedro Sanchez fait face en effet à un scandale de corruption qui a pris une nouvelle tournure après la mise en examen hier pour corruption du numéro 3 de son parti, le PSOE. Le dirigeant socialiste a présenté ses excuses, mais exclu des élections anticipées. Les précisions à Barcelone de Luis Marsans.
Le visage fermé, l'air grave, Pedro Sanchez a demandé pardon hier soir aux Espagnols. Quelques heures plus tôt, un rapport de police révélait la possible participation de Santos Cerdà, numéro 3 du Parti Socialiste, dans l'attribution indue d'un contrat public pour laquelle il aurait touché de l'argent. Nous n'aurions pas dû lui faire confiance, indiquait le Premier ministre socialiste à propos de celui qui était considéré comme l'homme des dossiers délicats au sein du parti. Santos Cerdà a démissionné hier de toutes ses fonctions, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour faire retomber la pression sur Pedro Sanchez qui, après avoir présenté ses excuses, indiquait qu'il ignorait tout des agissements de son camarade socialiste. Il a ensuite exclu la possibilité de convoquer des élections anticipées. L'opposition de droite réclame le départ de Pedro Sanchez et des élections au plus vite. Les ennuis s'accumulent pour le socialiste. Sa femme est déjà mise en cause dans une affaire de corruption et son frère sera bientôt jugé pour trafic d'influence. Au pouvoir depuis 2018, difficile de dire si Pedro Sanchez parviendra à résister à cette nouvelle tempête. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
C'est dimanche en la basilique Saint-Paul-Orlemur à Rome que sera béatifié Floribert Buanachui, un Congolais tué en 2007 car il refusait d'être corrompu. En novembre 2024, le pape François l'a reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Un membre de la communauté Sant'Egidio, ce jeune homme œuvrait également auprès des enfants des rues. Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma, revient sur cet engagement de Floribert.
Je dirais ce que je garde de Floribert comme quelqu'un qui voulait servir, pour qui toutes les vies comptaient, même ceux des enfants de la rue, les enfants qui ne sont pas reconnus même par la société, mais ce sont ces enfants-là où, que Floribert prenait soin, il les protégeait du danger. Je peux témoigner l'exemple de Jonathan, un enfant de la rue qui était venu de Bukavu, il jouait dans le bateau, et puis du coup le bateau a pris le large et puis s'est retrouvé le matin à Goma, sans famille, sans personne, il ne connaissait même pas cette ville, il a rencontré Floribert. Et comme il s'est senti responsable de la vie de ce jeune garçon, Jonathan, et par après Floribert, il a cherché la famille de Jonathan à Bukavu. Il a pu retrouver la famille et puis il a ramené Jonathan dans sa famille. Jonathan, lui, quand il parlait de Floribert, dit que j'ai compris que c'était un ange que Dieu m'avait envoyé pour me sauver de la rue. Il voulait voir tout le monde ensemble. Il disait toujours, il rêve d'un Congo où tous seront assis sur une même table. C'est quelqu'un qui voulait voir tout le monde heureux autour de lui.
Des propos recueillis par Stanislas Kambashi, retrouvés sur notre site internet. C'est une date qui était attendue depuis plusieurs semaines, celle de la canonisation des jeunes Italiens Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Elle aura lieu le dimanche 7 septembre, annonce faite à l'issue du premier consistoire ordinaire public de Lyon 14 ce matin. Sept autres bienheureux seront eux canonisés le 19 octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome, d'ici à notre site internet. Excellente journée à toutes et à tous.
KTO Radio. KTO Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, la Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Contre un plus fort vouloir, mal combat un autre vouloir. Ainsi, contre ce qui me plaisait pour lui plaire, je retirais de l'eau l'éponge non rassasiée. Je m'avançais, et mon guide s'avança par l'espace libre le long de la rampe, comme on va par un étroit mur crénelé, car la jante qui, par les yeux, goutte à goutte, verse le mal dont tout le monde est plein, s'approchait trop en dehors. Maudite sois-tu, antique louve, qui, plus que toutes les autres bêtes, abonde de proie pour ta faim sans fond. Ô ciel, dont on paraît croire que les mouvements changent la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par lequel s'en ira celle-ci? Nous allions à pas lents et rares, et j'étais attentif aux ombres que j'entendais pitoyablement pleurer et se plaindre, lorsque, de fortune, jouit douce Marie devant nous appelée au milieu de ses pleurs, comme la femme en travail d'enfant, et ajoutée « Aussi pauvre tu fus, qu'on le peut voir par le réduit où tu déposas ton fruit saint. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabricius, tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. » Ces paroles tant me plurent que je m'avançais pour connaître l'esprit de qui elles paraissaient venir. Ils parlaient aussi de la largesse que fit Nicolas aux jeunes vierges pour conserver pur leur honneur. « Ô âme qui si bien discours, dis-moi qui tu fus, dis-je, et pourquoi seul tu renouvelles ces dignes louanges ?» Tes paroles ne seront point sans récompense si je reviens accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers son terme. Et lui, je te parlerai non pour confort que j'attende de là, mais à cause de la grâce singulière qui reluit en moi avant que tu sois mort. Je fus la racine de la mauvaise plante qui, tellement de son ombre, couvre la terre chrétienne que rarement s'y cueille un bon fruit. Si Douai, Gand, Lille et Bruges pouvaient, prompte en serait la vengeance, et je la demande à celui qui juge tout. Je fus appelé là Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui nouvellement est régie la France. Je fus fils d'un boucher de Paris. Lorsque les anciens rois vinrent à manquer tous, hors un qui avait endossé la robe grise, je me trouvais ayant en main le frein du gouvernement du royaume et si puissant par de nouveaux acquêts et entouré de tant d'amis qu'à la couronne, veuve fut promue la tête de mon fils, par qui de cela commença la race exécrable. Jusqu'à ce que la grande dot de Provence eût à mon sang ôté toute pudeur, peu il valait, mais du moins il ne faisait pas de mal. Alors, par la force et le mensonge, commencèrent leurs rapines. Ensuite, pour amende, ils prirent le Pontois, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie et pour amende fit de Coradin une victime. Et au ciel renvoya Thomas pour amende. Peu après, je vois un temps où de France est attiré un nouveau Charles, pour que mieux soit connu et lui et les siens. Il en sort sans armée, seul avec la lance, avec laquelle jouta Judas, et si bien que de Florence elle ouvre le flanc. Par là, point de terre, il ne gagnera, mais péché et honte, pour lui d'autant plus pesant que plus léger lui semblera un pareil dommage. L'autre qui sortit ensuite, je le vois pris sur un navire vendre sa fille et en trafiquer comme les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, quoi de plus peux-tu faire des miens, après qu'à toi tellement tu les as attirés, que point ils n'ont souci de leur propre chair ? Pour que moindre paraisse le mal futur et le mal fait, je vois dans Alania entrer le Lys et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois moquer une autre fois, je le vois de rechef abreuvé de vinaigre et de fiel et mis à mort entre deux voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel que, non assouvi encore, il porte sans rescrit ses voiles avides dans le temple. Ô mon Seigneur, quand joyeux verrai-je la vengeance cachée dont jouit en secret ta colère. Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit-Saint, sur quoi pour t'enquérir tu t'es tourné vers moi, nous le redisons dans nos prières pendant que le jour dure. Mais quand vient la nuit, nos voix prennent un ton contraire. Alors nous parlons de Pygmalion, que traître et voleur et parricide fit l'insatiable désir de l'or, et de la misère de l'avare Midas, suite de l'avide demande qui doit le rendre à jamais un objet de risée. Puis chacun se rappelle l'insensé Achan, comment il déroba le butin, et il semble qu'ici encore le châtie la colère de Josué. Ensuite, nous accusons Saphira avec son mari, aux ruades que reçut Héliodore, nous applaudissons, et tout le mont roule dans l'infamie Polymnestor qui tua Polydore. Enfin, ici l'on crie, « Ô Crassus, dis-nous, puisque tu le sais, quel goût a l'or ?» L'un parle haut et l'autre bas, selon le sentiment qui nous excite à parler avec plus ou moins de véhémence. Cependant, à écouter le bien que le jour on rappelle, je n'étais pas seul. Mais là, au prêtre était une personne qui n'élevait pas la voix. Nous avions quitté cet esprit et nous tâchions de gagner du chemin autant que nos forces nous le permettaient lorsque je sentis trembler le mont comme une chose qui tombe, d'où je fus pris d'un frisson semblable à celui que saisit l'homme qu'on mène à la mort. Si fortement ne trembla pas Délos, avant que Latone y eût fait le nid où elle enfanta les deux yeux du ciel. Puis retentit de toutes parts un cri tel que le maître se tourna vers moi, disant « Ne crains rien, pendant que je te guide. » « Gloria in excelsis Deo », tous disaient, selon que je le compris, lorsque de plus près je pus entendre les cris. Nous demeurâmes immobiles et en suspens, comme les pasteurs qui les premiers ouïrent ce chant, jusqu'à ce que le tremblement ayant cessé, le chant aussi cessa. Puis nous reprîmes notre route sainte, regardant les ombres qui gisaient à terre et qui déjà étaient retournées aux pleurs accoutumées. Contre aucune ignorance qui me rendit désireux de savoir, je n'eus jamais si grand combat, si ma mémoire en cela n'erre pas, que n'était celui qu'en ma pensée il me semblait alors avoir, et à cause de la hâte, je n'osais demander, et là par moi-même je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais timide et pensif. Chant 21e. La soif naturelle qu'apaise seule l'eau qu'en grâce demanda la pauvre femme samaritaine me tourmentait. Et par la route, embarrassée, me hâtant à la suite de mon guide, j'étais ému de la juste vengeance, quand voilà que, comme en Luc il est écrit que le Christ sortit du sépulcre, apparut à deux de ses disciples en voyage, nous apparut une ombre. Derrière nous, elle venait, regardant la troupe gisante à ses pieds. Nous ne l'avions point aperçue, de sorte que la première, elle parla, disant « Mes frères, que Dieu vous donne la paix !» Soudain, nous nous retournâmes, et Virgile lui rendit le salut qui convenait au sien. Puis il commença que dans l'assemblée bienheureuse t'introduise en paix le juste juge qui me relègue dans un éternel exil. Si vous êtes, dit-elle, en continuant d'aller des ombres que Dieu ne daigne pas admettre là-haut, qui vous a ainsi conduit par cet escalier ? Et mon maître, si tu regardes les signes que porte celui-ci et que l'ange a tracés, bien verras-tu qu'avec les bons il doit régner. Mais parce que celle qui jour et nuit file n'avait pas encore épuisé la quenouille que Clotho dispose et mesure pour chacun, son âme, sœur de la tienne et de la mienne, venant là-haut, n'y pouvait venir seule, ne voyant pas comme nous voyons. Ce pourquoi je fus tiré de la large gueule de l'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le pourra mon savoir. Mais dis-nous, si tu le sais, pourquoi de telles secousses ont ébranlé le mont et pourquoi tous ensemble ont paru jeter le même cri jusqu'à son humide pied. Ainsi demandant, il toucha tellement le but de mon désir que par l'espérance, un peu apaisée fut ma soif. Celui-là commença. Point n'est-ce une chose qui trouble l'ordre de la pieuse montagne ou qui soit inaccoutumée. Elle est exempte de toute altération. De ce qu'en soi le ciel reçoit d'elle, cela peut venir, et non d'autre chose. Car ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni bruine ne tombent au-dessus du court escalier des 3 degrés. Ne s'y voit aucun nuage épais ou léger, ni éclair, ni la fille de Thomas qui, là, souvent change de contrée. Nulle sèche vapeur ne monte plus haut que le sommet des 3 degrés dont je parlais, ou le vicaire de Pierre à ses pieds. Peut-être plus bas tremble-t-elle un peu ou beaucoup, mais par un vent qui dans la terre se cache, je ne sais comme, ici haut, le mont ne tremble jamais. Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, de sorte qu'elle monte, ou se meuve pour monter, et se crie la seconde. De la pureté, le seul vouloir fait preuve. L'âme tout à coup se sentant libre de changer de demeure, et de le vouloir, elle se réjouit. Auparavant, bien le voudrait, mais ne le permet pas le désir par lequel veut la divine justice qu'elle se porte vers le châtiment comme au péché elle se porta. Et moi qui, 500 ans et plus, ai été gisant sous cette peine, tout à l'heure seulement j'ai senti le désir d'un séjour meilleur. Pour cela, tu as senti le tremblement et entendu les pieux esprits par tout le mont rendre gloire à ce Seigneur afin qu'il hâte leur passage là-haut. Ainsi il dit, et comme on se réjouit d'autant plus de boire que plus grande est la soif, je ne saurais dire combien il satisfit la mienne. Et le sage guide, maintenant je vois le filet où ici vous êtes pris, et comme on s'en dégage, pourquoi le tremblement et de quoi vous vous conjouissez? Qu'il te plaise maintenant que je sache qui tu fus. Pourquoi tant de siècles tu as été gisant, je l'ai compris par tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du souverain roi, vengea les blessures d'où sortit le sang vendu par Judas, revêtu du nom le plus durable et le plus honoré, j'étais là, célèbre, mais n'ayant pas encore la foi. Tant fut doux le souffle de ma voix, que de Toulouse à Soie m'attira Rome, où je méritais que de myrte mes tempes fussent ornées. Là encore, on me nomme Stas. Je chantais de Thèbes, puis du grand Achille, mais sous la seconde charge en chemin je tombais. De mon ardeur furent la semence les étincelles de la divine flamme qui m'embrasa et à laquelle se sont allumées 1000. Je parle de l'Énéide qui me fut une mamelle et une nourrice de poésie. Sans elle je n'eusse pesé une drachme. Et pour avoir vécu là quand vivait Virgile, je consentirais que d'un soleil plus que je ne dois, fut retardée la fin de mon bannissement. Virgile, à ces paroles, vers moi se tourna, d'un visage qui, en se taisant, me disait « Tais-toi ». Mais ne peut la vertu tout ce qu'elle veut. Le rire et les pleurs suivent tellement la passion qui les excite qu'ils n'obéissent point au vouloir et moins encore chez les plus vrais. Je souris donc comme celui qui fait signe, sur quoi l'ombre se tut et me regarda aux yeux où plus se retrace l'image véritable. « Que d'un si grand travail tu recueilles le fruit, dit-il. Pourquoi ton visage m'a-t-il tout à l'heure montré un éclair de rire ? Je me trouve ainsi pris d'une et d'autre part, de l'une on me commande de me taire, de l'autre on me conjure de parler, d'où un soupir qui me fait comprendre. Parle, dit mon maître, et ne crains pas de parler, mais parle et dis-lui ce qu'il demande avec tant de soucis. Moi donc, peut-être, antique esprit, t'étonnes-tu du sourire qui m'est échappé, mais je veux que tu t'étonnes plus encore. Celui-ci, qui en haut guide mes yeux, est ce Virgile, à qui tu dois d'avoir chanté avec éclat les hommes et les dieux. Si tu as cru que mon sourire eût une autre cause, tiens-la pour fausse, et attribue-le à ce que tu as dit de lui. » Déjà, il s'inclinait pour baiser les pieds de mon maître, mais celui-ci lui dit « Non, frère, ombre tu es, et tu vois une ombre. » Et lui, se relevant, « Tu peux juger de l'ardeur de mon amour pour toi, lorsque, oubliant que nous ne sommes que des formes vaines, je traite les ombres comme des corps réels. » Chant 22e. Déjà derrière nous, l'ange était resté, l'ange qui nous avait acheminé vers le 6e cercle, après avoir effacé de mon front une empreinte, et avec ceux qui à désir ont la justice, il nous avait dit « Beati » et le reste des paroles avec « Sitisiunt » sans ajouter rien autre chose. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, si facilement j'allais que sans aucun travail, je suivais en haut les rapides esprits, quand Virgile commença, un amour qu'enflamme la vertu, enflamme toujours un autre amour pourvu qu'au dehors la flamme paraisse. Ainsi, du moment où parmi nous dans les limbes de l'enfer descendit Juvénal, qui me révéla ton affection, la mienne fut la plus vive qu'on puisse ressentir pour une personne qu'on ne vit jamais. De sorte que courts maintenant me paraîtront ces escaliers. Mais dis-moi, et comme ami, pardonne si par excès de confiance trop je lâche le frein, et comme ami, désormais, discours avec moi. Comment put l'avarice trouver place en ton sein, soigneusement rempli, comme tu l'étais de toute sagesse ? Ces paroles provoquèrent d'abord en Stas un léger rire, puis il répondit « Chacun de tes dires m'est une chère marque d'amour. » Véritablement, quelquefois apparaissent des choses qui donnent un faux sujet d'étonnement parce que les choses en sont cachées. Ta demande me montre que tu crois peut-être à cause du cercle où j'étais que je fus avare en l'autre vie. Or, sache que trop fus-je éloigné de l'avarice et cet excès a été puni des milliers de lunaisons. Et n'était que je redressais mon penchant lorsque j'entendis comme en ton courroux tu gourmandes la nature humaine, à quoi ne conduis-tu point, exécrable fin de l'or, la convoitise des mortels ? Roulant mon fardeau, je sentirais les joutes douloureuses. Alors je m'aperçus que trop pouvait s'ouvrir les mains pour dépenser, et je me repentis de ce mal comme des autres. Combien ressusciteront la tête rase à cause de l'ignorance qui de ce péché empêche de se repentir vivant et jusqu'au dernier terme ? Et sache que la faute directement opposée à une autre sèche avec elle ici sa verdeur. Si donc, pour me purifier, j'ai été parmi ceux qui pleurent l'avarice, par son contraire, ce m'est advenu. Quand tu chantas les armes cruelles, cause de la double tristesse de Jocaste, dit le chantre des bucoliques, par ces chants m'accompagne Clio, il ne paraît pas que fidèle, tu fais encore la foi, sans laquelle point ne suffit de bien faire. S'il est ainsi, quel soleil ou quel flambeau dissipe tellement les ténèbres qu'après tu dirigeas tes voiles à la suite du pêcheur. Et lui dit, Toi le premier, tu me conduisis au Parnasse pour me désaltérer dans ces grottes. Toi le premier, après Dieu, tu m'éclairas. Tu as fait comme celui qui va de nuit, projetant derrière soi la lumière, et à lui elle ne sert, mais il instruit ceux qui le suivent. Quand tu as dit « le siècle se renouvelle, la justice revient et le premier âge de l'homme, du ciel descend une race nouvelle, par toi je fus poète, par toi chrétien. » Mais pour que mieux tu discernes ce que je dessine, ma main y apposera les couleurs. Déjà tout le monde était plein de la vraie croyance, semée par les messagers du royaume éternel, et ta parole, que je viens de rappeler, s'accordait avec celle des nouveaux prédicateurs, d'où je pris l'habitude de les visiter. Ensuite, ils me parurent si saints que quand Domitien les persécuta, à leurs pleurs je mêlais mes larmes. Et tant que je fus de là, je les secourus, et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant qu'en mes vers je conduisisse les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur je me cachais d'être chrétien et restais longtemps païen en apparence. Cette tiédeur m'a, plus de 400 ans, retenu dans le quatrième cercle. Toi donc qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, tandis que nous avons encore à monter beaucoup, dis-moi où est notre chère Thérence, Cécilius, Plaute et Varron, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont condamnés et à quelle demeure. Cela, et Perse, et moi, et beaucoup d'autres, répondit mon guide, nous sommes, avec ce grec que les muses allaitèrent plus abondamment qu'aucun autre, dans le premier cercle de l'obscure prison. Bien souvent, nous parlons du mont que ne quittent point celles qui nous ont nourris. Avec nous sont Euripide, Antiphon, Simonide, Agathon et plusieurs autres Grecs qui saignirent leur front de laurier. Là, de ceux que tu as chantés, se voient Antigone, Déiphile et Argia et Ismène, toujours aussi triste. On y voit celle qui montra Langia. Là est la fille de Tirésias et Tétis et Déidamie avec ses sœurs. Déjà, les deux poètes se taisaient. De nouveau attentifs à regarder autour, hors désormais de la montée et des parois. Et déjà quatre des servantes du jour étaient demeurées en arrière, et la cinquième était au timon, le dirigeant en haut vers la zone ardente quand mon guide. Je crois qu'en suivant le contour du mont, nous devons tourner notre droite vers le bord extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Ainsi, l'accoutumance fut là notre enseignement, et nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance par l'assentiment de cette digne âme, et ils allaient devant et moi seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient l'intelligence de la poésie. Mais tôt rompit le doux discourir un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes chargé de pommes à l'odorat suaves et bonnes. Et comme le sapin de rameau en rameau se rétrécit en s'élevant, ainsi cet arbre en descendant, afin je crois que dessus nul ne monte. Du côté où le chemin était fermé, tombait du roc élevé une eau claire qui se répandait d'en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre et d'au-dedans, à travers le feuillage, une voix cria « De ce fruit vous aurez disette ». Puis elle dit « Plus pensait Marie à ce que les noces furent honorables et complètes qu'à sa bouche qui maintenant pour vous répond. » Et les antiques Romains se contentèrent d'eau pour boisson, et Daniel méprisa le manger et acquit le savoir. Le premier âge fut beau comme l'or, il rendit par la faim les glands savoureux et par la soif fit de chaque ruisseau du nectar. Du miel et des sauterelles furent la nourriture de Baptiste dans le désert. Pour cela glorieux est-il et aussi grand que le déclare l'Évangile.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio.
KTO Radio. demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi. Jésus ressuscité, sauveur et prince de paix. À toi la majesté, ton règne dure à jamais. Lumière, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père.
In his hands, he's got a you and me, brother. écoutez KTO Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Lors de ma première chronique sur KTO, je vous ai parlé de la dignité humaine. Cette dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Or voilà, très récemment, l'Assemblée nationale a voté un texte, ce qui est très joliment appelé « aide à mourir », tout en essayant de convaincre que c'est notamment pour mourir dans la dignité. Car visiblement, dans les têtes de ceux qui ont voté cette loi, une personne qui souffre est réduite dans sa dignité. À titre personnel, je préfère qu'on puisse vivre dignement plutôt que quelqu'un m'aide à mourir ou encore pire, qu'il puisse décider à ma place que je devrais mourir. Face à cette approche réductrice de la dignité et en tant qu'un entrepreneur et dirigeant chrétien, je préfère me concentrer sur la vie. Car les exemples où la vie est plus forte que le désespoir dans lequel on essaye de nous faire plonger sont nombreux. Lors de cette chronique, je voudrais vous en citer trois exemples. Tout d'abord, la fondation Amipi. C'est un modèle d'usine unique en son genre qui transforme notre vision du travail. 6 usines à Prenantes, plus de 800 salariés, 215 personnes en situation de handicap, réintégrées en entreprise classique. Un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et 20 millions d'économies de dépenses publiques par an. La mission de la Fondation Amipi est de remettre sur pied les personnes qui ont été laissées sur le côté. Les apprentissages de la Fondation consistent d'abord à apprendre des techniques. Ces techniques utilisent nos sens. Et ces sens sont faits pour développer le cerveau. En situation d'apprentissage, il y a des sollicitations répétées qui développent des synapses existantes entre le neurone et créent de nouvelles. Chez des personnes avec des déficits intellectuels, ce type d'apprentissage exacerbé peut améliorer leur capacité cérébrale. L'AMIPI prouve qu'en repensant le travail comme un levier d'apprentissage, on peut reprogrammer un cerveau, rendre de l'autonomie et créer de la valeur. Un second exemple, c'est Innove & Co Handicap, créé par Thomas Sayard, ingénieur et autiste Asperger. Cette société offre à ses clients la possibilité de donner du sens à leurs prestations et de porter leurs valeurs humaines dans l'entreprise. C'est une entreprise de consultants handicapés, agréée entreprise adaptée. Les clients disent que leurs équipes internes sont plus à l'écoute et interagissent beaucoup plus avec les consultants handicapés d'Innove & Co Handicap qu'avec ceux d'un cabinet classique, car leur singularité est source d'adhésion au projet confié. On pourrait bien répéter derrière Émile Zola que l'humanité s'élève chaque fois qu'elle tend la main. Enfin, la société Cassano, le chêne gaulois dont le créateur Théodore Van Gaver était lauréat de la 10e édition du prix de l'économie du bien commun de la Fondation EDC. Cassano produit du bois d'œuvre et de meubles en valorisant le chêne 100% français, issu des tonneries de cognac, et en intégrant des travailleurs en situation de handicap mental. Il s'agit d'une fabrication en circuit court, avec un atelier au cours de la Charente. Ces exemples peuvent paraître décalés par rapport à notre réalité économique. Ces entreprises sont pourtant une preuve vivante que l'humanité peut tendre la main. Serons-nous résolus à aller dans ce sens? Merci et à bientôt.
Ton église s'élève, mon chant, ma voix. Un pas, me fait me lever, me fait dire je vis pour toi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassemblés, réunis pour t'acclamer. Quand ma vie s'est décidée, c'est par la foi que je peux chanter. Par ta victoire, je peux me lever, car je vivrai pour toi. Je peux affirmer que c'est avec toi que je veux. Ici, en ton église, tu règnes, Dieu notre choix. Toi seul es la raison de nos cris, de notre foi. Nos cœurs et nos bras levés, chacun de nous rassemblés, réunis pour t'acclamer. Quand ma vie s'est décidée, c'est par la foi que je peux chanter. Par ta victoire, je peux me lever, car je vivrai pour toi. Je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser. Ta victoire, je peux me lever, car je vivrai pour toi. Je peux affirmer que c'est avec toi que je veux danser.
Yeah.
KTO Radio.
Bonjour. Qui a tué Paul ? Pas de Brutus ou de Ravaillac inscrit dans les mémoires. Les actes des apôtres gardent le silence sur ce sujet. Alors, qui est responsable de sa décapitation sur les bords du Tibre ? Néron et ses sbires. Dans les années 64, Paul, qui est à Rome, est susceptible d'inquiéter l'empereur. En effet, ne présente-t-il pas le Christ comme Seigneur, alors que Néron se prétend Dieu ? De plus, Paul a les traits de l'étranger. Il est donc facile de l'accuser du délit de lèse-majesté, délit que vient de remettre à l'honneur Tigelin, un des préfets du prétoire, aventurier peu scrupuleux, à la solde d'un régime de plus en plus violent. Ce n'est pas tout. Une vieille connaissance de Paul vit à la cour. Balbilus, le préfet astrologue, qui a poursuivi l'apôtre à Éphèse. Intime de Néron, il a les moyens de faire accuser Paul de magie. La limite entre la magie et la philosophie n'est pas très nette. Or, la plus ancienne image que la tradition romaine et l'iconographie ont gardée de Paul est justement celle de l'apôtre philosophe. N'oublions pas qu'à cette époque, Néron s'acharne contre eux. Pison, Lucain, Sénèque, tous sont assassinés ou contraints au suicide. On le voit, Néron et ses complices ne manquent pas de prétexte pour éliminer Paul. Un autre groupe n'est peut-être pas au-dessus de tout soupçon. Il s'agit des Juifs. En effet, les conflits qui les opposent aux chrétiens ont pu faciliter les enquêtes de police et favoriser la délation. D'autant que parmi les Juifs de Rome, certains ont l'oreille du pouvoir. Et côté chrétien, lorsque, en 49, Claude a chassé les Juifs de Rome, et de fait les Juifs devenus chrétiens, les chrétiens d'origine païenne ont dû inventer une nouvelle organisation. Plus tard, quand les judéo-chrétiens sont revenus, il s'en est suivi des tensions. En 64, après l'incendie, la communauté est, sinon décimée, du moins sérieusement abîmée. Paul est seul. Alors, qui a tué Paul ? Une remarque de Clément de Rome à la fin du 1er siècle fournit un indice. Je cite. « Par suite de la jalousie et de la discorde, Paul a montré le prix réservé à la constance. » À qui pensait-il ? Aux chrétiens ? Aux juifs ? À Néron ? Dans un contexte aussi délétère, chaque groupe a eu sans doute une part de responsabilité. Si Clément ne donne pas de nom, il est sans ambiguïté sur le motif peu avouable, la jalousie et la discorde. Comme en témoigne la seconde lettre à Timothée, Paul, abandonné de la plupart des siens, pressentait que sa fin était proche. Il écrivait « Je suis déjà offert en sacrifice ». Pas de traces des assassins. Demeure le corps de Paul, que quelques chrétiens restés fidèles, honorèrent d'une sépulture sur le lieu du martyr. Là où, siècle après siècle, les foules viennent des quatre coins du monde se recueillir pour conforter leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. À bientôt.
Fermé pour lui. Chantez sa gloire.